Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de finir la semaine avec vous en votre compagnie et l'équipe de Culture Média. Au menu, 2 heures de médias et de culture au sens large. Tous les médias, toutes les formes de culture. On va parler, tiens, 2 fois de cœur, 1 fois avec de l'amour et 1 autre fois avec des vampires. Vous pouvez nous suivre évidemment en vidéo sur le site europe1.fr. Notre info média, on va parler des enfants youtubeurs. Je sais pas si vous les connaissez, ils ont parfois des millions de followers, pas des milliers, des millions, des Français. Ils gagnent déjà leur vie, ou plutôt leurs parents, et un projet de loi tente d'encadrer ce qui ressemble parfois à de l'exploitation façon Thénardier 2.0. Le député à l'origine du projet sera avec nous. Question, avons-nous besoin d'admirer? Question de plus en plus cruciale avec les réseaux sociaux. Elle est en une, cette question du mensuel Philosophie Magazine, qui marche très très bien. Et pour y répondre, nous serons avec Michel Elchaninoff, c'est son rédacteur en chef. Enfin, le comédien et humoriste complètement déjanté Arnaud Ducret. Oui, c'est le grand baraqué de parents mode d'emploi, mais aussi dans Prof, c'est le prof de sport. Il a le premier rôle, un rôle de composition pour le film Mine de Rien, une comédie sociale dans les terrils du Nord, des gars qui veulent faire un parc d'attractions amateur dans une mine de charbon désaffectée. Hélène Manarino va nous faire son portrait inattendu de Ducre et pas de la mine de charbon. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
C'est mieux quand même. Hein, bonjour Philippe Vandade, bonjour à tous.
Cyril Lacarrière, que j'arrive encore à faire rigoler. C'est oui, les vieux couples. Comme chaque matin, on commence avec votre journal des médias. Qu'est-ce que vous avez au programme, j'ose pas dire en stock?
Ce matin, Philippe, c'est le retour des aventuriers, le retour des victoires, et je vous embarque pour un tour de pêche au homard.
Alors j'attends ça sur la pêche au homard. Mais d'abord, les audiences, la tradition chaque matin. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier à la télé?
Eh bien, c'est une drôle de soirée en termes d'audience, puisque c'est M6 qui se classe en tête avec son film À bras ouverts. Il y avait 2 700 000 téléspectateurs devant la 6.
C'est pas de la très très grosse audience, 2 700 000. Hein.
Non, surtout pour un leader hein, d'hier soir, ça représente 13% de part d'audience. En deuxième position, un autre film sur France 3, Prête-moi ta main avec Charlotte Gainsbourg et Alain Chabat, 2 et demi de téléspectateurs. Troisième position, l'émission, le magazine Envoyé spécial sur France 2, 2 400 000 téléspectateurs. Et c'est seulement en quatrième position qu'arrive TF1, qui diffusait le spectacle de Malik Bentala. 1 800 000 téléspectateurs étaient devant la une. C'est une prise de risque hein, pour TF1. Ouais. Ça représente 10% de part d'audience.
C'est pas beaucoup pour TF1.
Non, c'est pas beaucoup. Juste quand même à noter qu'il y avait pour les 4-34 ans, là, c'est 20% de part d'audience pour le spectacle de Malik Bentala. Donc on le disait, une grosse prise de risque pour TF1 qui ne s'avère pas vraiment payante. En tout cas en termes d'audience.
Ouais, en même temps, comme on dit, l'image d'aujourd'hui, c'est l'audience de demain. Ils voulaient peut-être faire de l'image. Et le spectacle de Malik Bentala était hier en tête sur Twitter. Voilà. Donc c'est les jeunes, et peut-être que TF1 ramène des jeunes comme ça qui ensuite vont rester. C'est souvent ce que fait par exemple France 2, où on en parlait soit avec M6, qui avait fait l'émission Qui veut être mon associé, qui visait un autre public que le public traditionnel. Place maintenant au journal des médias, Cyril. On va commencer avec un des temps forts de la saison télé, le lancement de la nouvelle saison de Koh-Lanta, rendez-vous toujours très attendu par les fans de l'émission et par TF1.
Et oui, évidemment. Et pour cette édition spéciale baptisée L'île des héros, le retour des héros, pardon.
Des héros, pas des héros. Vous
avez dit des héros. Ouais,
faut bien prononcer, Cyril.
Le retour des héros, la production a préparé une surprise pour les fans. Vous avez évidemment reconnu, si vous connaissez l'émission, l'emblématique générique de Koh-Lanta, une des marques de fabrique du programme qui existe depuis sa première diffusion il y a 19 ans. Eh bien attention, il va falloir s'habituer à un nouveau générique. Ah. Écoutez ce que ça donne. Je sens que Céline Dacosta est totalement perturbée. Un générique très différent, en tout cas pour la partie que l'on entend. La deuxième partie ressemble déjà plus à ce qu'on connaît jusqu'ici. Mais attention, aucune décision n'a été prise concernant la pérennité de ce nouveau générique. Pour le moment, uniquement prévu pour cette édition spéciale.
Mais question, pourquoi changer un générique que tout le monde connaît?
Eh bien écoutez, c'est justement la question que nous avons posée à Alexia Laroche-Joubert, la productrice de Koh-Lanta. Elle est interrogée par Louise Bernard.
Cette année, on a décidé de faire un peu évoluer le générique parce que ça correspond en fin de compte à l'histoire qu'on raconte. Là, exceptionnellement, et pour la première fois dans l'histoire de Koh-Lanta, il va y avoir des héros connus de tous, Claude, Sarah, Jessica, Moussa, Théora, qui vont affronter des anonymes et qui vont rejoindre des anonymes dans des équipes. On voulait avoir une musique de générique rageur. Pourquoi? Parce que ces 5 héros ont tous une revanche à prendre dans Koh-Lanta. Ils n'ont jamais gagné. Ils ont souvent été à la porte de la finale et pour de multiples raisons ont perdu. Et donc on voulait rajouter ce côté musical très dans la rage, dans l'art de gagner, dans cette envie de compétition.
Voilà un générique avec plus de rage et d'esprit de compétition pour l'île des héros. Alexia Laroche-Joubert l'a dit, ce Koh-Lanta est une édition spéciale qui mélange des candidats inconnus et d'anciennes gloires du programme. Mais du coup, on se pose une question, est-ce que dans cette configuration, les anciens ne sont pas avantagés par rapport aux petits bisous ? La réponse de la productrice.
On peut penser comme ça qu'ils sont privilégiés par rapport à des anonymes parce que évidemment pour certains, ils ont vécu l'expérience plusieurs fois. Mais inversement, ne sont-ils pas dans la stratégie de Koh-Lanta plus en risque parce que justement, on se méfie d'eux. Je laisse le téléspectateur découvrir ça tout au long des épisodes.
On suivra tout ça, bien sûr, avec beaucoup d'attention, d'autant plus que ce matin, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Denis Brognard nous révèle que lors de cette saison, il va se passer quelque chose d'inédit lors d'un conseil de Koh-Lanta, quelque chose qui ne s'est jamais produit dans toute l'histoire de l'émission. Un suspense intenable.
Qu'est-ce que ça peut être ?
La nouvelle saison de Koh-Lanta, ça commence donc ce soir sur TF1. Probablement un nouveau carton d'audience pour la Une.
Et ce soir sur France 3, en face, c'est la 27e édition des Victoires de la musique classique.
Comme chaque année, après les variétés, c'est au tour du monde du classique de décerner les prix à ses meilleurs représentants. Cette année, la cérémonie se déroule à Metz et comme c'était le cas l'an dernier, elle sera présentée par Leïla Kaddour et Judith Chen. 7 prix seront remis lors de cette soirée, plus 2 victoires d'honneur. Et à l'heure où les Césars sont sujets à de fortes critiques concernant le manque de diversité et la faible représentation des femmes, les choses sont très différentes du côté de la musique classique. Écoutez ce que nous en dit Judith Chen, elle est au micro de Louise Bernard.
Il y a autant de nommés femmes que de nommés hommes. C'est pas fait exprès. On est 2 femmes à présenter et il y a autant de femmes que d'hommes. Il y a 2 femmes dans la catégorie des compositeurs. Il y a une chef d'orchestre, Alanda de la Parra, qui va diriger aussi à un moment. Donc ça, je pense qu'on est très fiers aussi d'être 2 femmes à présenter et puis d'avoir autant d'hommes que de femmes.
On vous a entendu klaxonner.
Oui, c'était moi qui passais. Louise Bernard me gênait dans la route. Et je klaxonne. Et malgré ce qu'on pourrait imaginer, ces victoires de la musique classique sont aussi l'occasion de croiser de jeunes artistes.
C'est une édition qui consacre la jeunesse parce que même des artistes qui concourent dans des catégories confirmées, l'artiste de l'année, etc., peuvent être aussi jeunes. Donc il y a une vraie dynamique qui montre à quel point c'est quand même un répertoire d'abord extrêmement varié parce que ça va de la musique vraiment ancienne à la musique contemporaine. Et florissant et accueillant, je pense, véritablement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être spécialiste de musique classique pour goûter toutes ces pages qui seront jouées. Et évidemment, cette cérémonie qui est avant tout joyeuse et qui couronne des grands artistes.
Mais convaincre le jeune public de s'intéresser à cette cérémonie n'est pas une mince affaire. L'an dernier, la part d'audience des 4-49 ans était de seulement 0,8%.
Oh, c'est très peu.
C'est très, très peu. Par ailleurs, parmi les personnes qui avaient regardé le programme, 42% avaient entre 70 et 79 ans et presque un tiers entre 80 et 89 ans. Pourtant, selon Judith Chen, c'est une soirée ouverte à tous.
On n'est pas obligé d'être bilingue en langue beethovenienne, mozartienne. Pour goûter ces moments-là, je pense que c'est véritablement l'émotion, c'est une façon de le faire partager. Et je sais que Leïla et moi, on a vraiment à cœur de faire partager ce répertoire, ces musiques, avec le plus de générosité et de donner envie aux gens qui peut-être se sentent pas invités à franchir le pas d'une salle de concert, au moins à rester devant leur télé. On a une image de temps en temps un peu perruque poudrée de la musique, c'est pas le cas et voilà, c'est la preuve en image de ça. Donc je pense que c'est important pour le public aussi, véritablement.
Judith Chen, une des 2 co-présentatrices des Victoires de la musique classique. La cérémonie est à suivre ce soir sur France 3 à partir de 21h.
Omar pêche à haut risque. Enfin Cyril, vous nous parlez d'un gros, gros sujet.
Oui, oui, et le homard est partout, même dans les médias. Et ce soir, les homards sont sur RMC Découverte. La chaîne du Canal 24 lance demain samedi une série documentaire Factual. Une drôle d'appellation pour dire qu'il s'agit d'un documentaire décliné en plusieurs épisodes qui suit tout particulièrement certains personnages.
Et Cyril, en quoi la pêche au homard, là je suis sérieux, est intéressante au point qu'elle nécessite plusieurs épisodes ?
Eh bien parce qu'il s'agit, selon la production, de la pêche la plus lucrative, compétitive et stratégique au monde, un marché à 1 milliard d'euros. Notre journaliste Louise Bernard a échangé avec Charlotte Balâtre, la productrice de cette série. Elle nous explique quelles étaient ses ambitions en se lançant dans cette aventure médiatico-maritime.
Notre ambition, c'était aussi de faire un show à l'américaine, c'est-à-dire feuilletonnant. Et il y a beaucoup de héros de pêche, pour la pêche au crabe, la pêche au thon, et c'est toujours des hommes exclusivement. Et là, pour la première fois, c'est une femme. Elle est époustouflante. Autre truc assez intéressant, c'est sa compagne qui est à bord du bateau. Parce que le petit village de Lunenburg, c'est quand même assez old school, et que ces deux femmes s'affichent en tant que pêcheuses et que couple, c'est une super histoire, parce qu'en fait on cherchait pas forcément une femme lesbienne, ce qu'on cherchait c'était un couple, parce qu'on s'est dit en fait la synergie sur un bateau, forcément ça va un peu s'engueuler, et donc on cherchait un couple, et on est tombé je pense sur le meilleur couple du monde en fait, avec ces deux femmes.
Alors vous vous demandez peut-être comment cette pêche au homard a atterri sur la grille de RMC Découverte, écoutons la réponse de la productrice.
Je me suis dit, en fait, il y a un truc qui marchera forcément pour RMC, c'est ce compte à rebours naturel, avec un début et une fin. C'est une histoire de toute façon qui se raconte facilement. C'est de toute façon, à partir du moment où il y a un compte à rebours, beaucoup d'argent et de l'aventure et des décors, c'est ça aussi qui veut dire, c'est que les décors sont fous. On ne peut pas imaginer un meilleur décorum que la Nouvelle-Écosse pour raconter cette histoire. Je me suis dit, il y a tous les facteurs pour faire une belle histoire qui étaient réunis dans ça.
Alors que vous aimiez ou non le homard, vous pouvez vous laisser tenter par cette série d'un nouveau genre. Alors si parfois les ficelles de la narration sont un peu grosses pour surjouer le côté suspense et série, le programme est plutôt bien produit et certains pêcheurs sont très intéressants, notamment ce couple de femmes, Gail et Catherine, qui forment le cœur du programme. Homard pêche à haut risque, ça commence donc ce samedi 22 février, toujours une date à cocher dans votre calendrier.
Et ça fait toujours plaisir quand ce sont des productions françaises et non des traductions d'un sujet avec des voix off un peu n'importe comment. Merci beaucoup Cyril, on vous retrouve lundi pour les grandes et les petites actus du monde des médias.
À suivre l'infomédia du jour avec au programme la protection des enfants youtubeurs et influenceurs avec une loi votée à l'Assemblée nationale. On en parle avec nos invités dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et c'est leur Philippe de l'infomédia du jour.
Ils ont 6 ans, 8 ans, 12 ans. Ils sont les héros de vidéos mises en scène par leurs parents. On les appelle des enfants youtubeurs ou des enfants influenceurs. Dans leurs vidéos, ils ou elles ouvrent des cadeaux, ils jouent à des jeux offerts par des marques. Est-ce que c'est pour le plaisir ou est-ce que c'est du travail? Jusqu'à présent, cette activité n'était pas encadrée juridiquement, mais c'est en train de changer. La semaine dernière, une proposition de loi a été examinée à l'Assemblée nationale. Elle a été adoptée à l'unanimité, a été saluée par Muriel Pénicaud, qui est la ministre du Travail, et par Franck Riester, ministre de la Culture. Et pour en parler, nous sommes avec Bruno Studer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes député LREM du Bas-Rhin et c'est vous qui avez déposé cette proposition de loi qui vise à encadrer l'activité des mineurs de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne. À vos côtés, Thomas Romer. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, OPEN, on dit Open. Avant de parler de cette proposition de loi, on va faire un état des lieux. Quelle était la règle jusqu'à présent, monsieur le député? Les parents ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent ou presque?
Presque. Ils étaient encadrés dans leur activité économique parce qu'ils généraient quand même des revenus. Mais sinon, c'est, l'état des lieux, c'est qu'il y avait un double vide juridique. Dans le cas où il y avait une relation de travail qu'on pouvait clairement établir entre le parent et l'enfant, eh bien, l'enfant n'était pas protégé par le statut, par exemple, qui existe pour les enfants du spectacle, les enfants acteurs, les enfants chanteurs ou les enfants mannequins.
Oui, par exemple, c'est très très précis. Par exemple, des enfants chanteurs qui montent sur scène ne peuvent pas jouer tous les soirs, les 5 soirs de la semaine. Il faut en prévoir plusieurs dans la distribution et plein de choses comme ça.
C'est ça, il y a un ensemble de protections. Alors, d'abord, le droit au consentement. On examine comme s'ils sont d'accord. Ensuite, le droit au loisir, le droit au repos, le droit à l'instruction. On vérifie, les services sociaux vérifient que l'enfant va bien ou à l'école ou est en tout cas bénéficiaire d'une instruction. Et puis après, bien entendu, il y a la question de où est-ce que va l'argent qui est généré par l'activité. Dans le cas des enfants du spectacle, c'est de l'argent qui est placé sur un compte en banque jusqu'aux 18 ans de l'enfant.
Il ne peut jamais toucher. Alors la proposition de loi, votre proposition de loi a été adoptée par l'Assemblée. Elle va être examinée ensuite au Sénat, c'est la règle. L'activité des mineurs de moins de 16 ans va donc être encadrée. C'est sur les plateformes en ligne. Comment exactement? Quel encadrement? Que prévoit votre projet?
Alors c'est effectivement un encadrement, c'est pas une interdiction. Il s'agit pas d'interdire. Après tout, on peut se réjouir qu'il y ait des nouvelles formes d'expression, de création, voire d'entrepreneuriat sur Internet. Mais il faut toujours se dire qu'il faut respecter et protéger les intérêts supérieurs des enfants. Donc on va, dans certains cas, transposer simplement ce qui existe pour les enfants du spectacle à ces enfants youtubeurs. On va les faire rentrer dans cette catégorie parce qu'on peut établir une relation de travail entre notamment le parent qui donne des consignes et l'enfant qui les exécute. Et puis après, c'est monétisé, puis ça fait l'objet du placement de produits. Mais après, ce qui est passionnant avec Internet, c'est que ça rebat toutes les cartes. Ça rebat notamment les cartes de l'espace privé, l'espace public. On a pu le voir ces derniers jours avec force. Mais ça rebat aussi toutes les cartes, notamment celle du droit du travail. Parce que dans certains cas, il y a des enfants qui ne sont pas dans une relation de travail. Par exemple, il n'y a pas de consigne. Vous pouvez filmer votre enfant dans la vie de tous les jours, monétiser la vidéo, faire du placement de produits. Par exemple, votre enfant joue bien au foot, vous le filmez, vous monétisez la vidéo et vous passez un contrat avec une marque de sportswear pour qu'il porte les bonnes marques de chaussures dans la vidéo, etc. Mais pour autant, donc, il n'est pas dans une relation de travail parce qu'il n'y a pas de consigne, mais il n'est plus dans du loisir non plus, parce qu'il y a un intérêt lucratif derrière. Et donc, il fallait inventer, pour le coup, vraiment inventer un nouveau système de protection. Donc, on rend une déclaration des parents obligatoire au-delà de certains seuils, que ce soit des seuils de revenus, que ce soit des seuils de nombre de vidéos ou d'heures de vidéos, parce qu'il peut y avoir des cas où, même s'il n'y a pas de revenus qui sont générés, il y a des parents qui poussent leur enfant à faire des vidéos parce qu'ils voient un bon filon, peut-être. Mmh. Et puis, il faut responsabiliser les entreprises qui font du placement de produits. Donc, il y a une amende qui est prévue pour ces entreprises si elles ne vérifient pas que ces déclarations ont été faites. Et d'ailleurs, 48 heures avant le vote de la proposition de loi, on s'est rendu compte que l'industrie, la Fédération Jouets et Puériculture a fait passer une charte à ces entreprises pour justement aller, on va dire, moraliser un petit peu la pratique du placement de produits chez ces kits influenceurs.
Vous venez à peine de l'évoquer, j'allais justement vous en parler. Comment va se passer la vérification ? Est-ce que c'est l'État ? Est-ce que ce sont les entreprises ? Est-ce que c'est les parents qui vont déclarer ? Comment vous allez savoir ce que gagnent les parents ? Comment vous allez vérifier que les vidéos sont bien tournées le mercredi, le week-end, pendant les vacances et pas pendant les heures de cours ?
En fait, c'est différents acteurs qui vont rentrer en jeu, y compris les associations de protection de l'enfance qui vont pouvoir signaler un certain nombre de cas, ouais. Qu'elles auront identifié grâce à la collaboration avec les plateformes, notamment que j'exige dans la rédaction de l'article 4. Et ensuite, c'est simplement un outil de plus. Ça ne va pas tout permettre de résoudre du jour au lendemain. Bah, de toute façon, la loi...
Vous n'avez pas répondu à ma question. Comment vous allez vérifier que les parents respectent la charte que vous exigez ?
Alors, c'est plus qu'une charte. Hein. La charte, c'est pour les
d'accord, mais ma question, c'était comment vous vérifiez ?
Alors, comment on vérifie ? Eh bien, tout simplement, l'administration est capable d'avoir des données. On va avoir des informations grâce à la collaboration qu'on exige des plateformes. Et puis ensuite, c'est soit la protection de l'enfance, c'est-à-dire la direction départementale de la cohésion sociale qui va pouvoir diligenter des enquêtes dans ces familles-là. Soit c'est le juge qui va pouvoir examiner simplement les revenus de qui sont générés par cela et comment est-ce qu'ils sont traités. Et puis après, c'est typiquement, par exemple, un enfant du spectacle, pour avoir l'autorisation de le faire jouer dans un film ou dans une pièce, eh bien, vous passez devant une commission.
Oui, mais ça, c'est très facile, puisqu'on sait quand il est sur scène, il y a une équipe de tournage. Mais comment savoir que les parents font refaire prise sur prise sur prise et que pendant deux heures, le petit gamin doit faire un numéro de jonglage au lieu de l'avoir fait en cinq minutes ? C'est là où ça va être très difficile.
Eh bien, dans le cas d'une relation de travail, eh bien, il y a des informations qui sont à donner de la part du producteur, hein, en l'occurrence ici le parent, mais effectivement c'est entièrement délicat puisque vous rentrez dans le domicile des gens. Et après, c'est pour ça que dans une des dispositions de la loi, c'est de faire des recommandations au nombre d'heures de tournage maximum par journée dans le cas où on n'a pas une relation de travail. Mais effectivement, c'est pas facile de le contrôler, mais ça n'est pas impossible. En tout cas, c'est un nouvel outil à disposition, encore une fois, des associations, de l'autorité départementale et du juge.
Thomas Romer, je l'ai dit, vous êtes président de l'association Open, l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Comment vous travaillez avec les familles, avec les enfants ? Vous êtes saisi de ce sujet depuis assez longtemps. En 2018, vous aviez saisi le défenseur des droits pour que ces mineurs bénéficient du même statut, notamment que les enfants mannequins. Où en est votre combat ?
Écoutez, alors d'aujourd'hui, on n'a aucune réponse. On avait même saisi la justice. Hein. Ouais. On n'a pas de réponse. On avait demandé une qualification, justement, en voyant clairement un parallèle avec l'industrie du spectacle et toute cette loi très protectrice, qui était d'ailleurs issue d'une histoire que tout le monde, peut-être vos auditeurs se souviennent, l'affaire Jordi.
Oui, bien sûr.
Qui avait permis la mise en place, justement, de cette loi, qui est plutôt bien fichue, hein, parce qu'on râle souvent en France, on dit souvent que les choses qui ne vont pas, mais là, on avait quand même une loi qui était très bien faite, qui n'était pas dans l'interdiction, mais plus dans l'encadrement, la protection de publics vulnérables que sont les enfants. Et nous, du coup, on s'est rendu compte que ce phénomène prenait de l'ampleur, que les vidéos étaient de plus en plus nombreuses, généraient de plus en plus de clics. Et puis surtout, quand on s'est amusé à aller compter le nombre de vidéos qui étaient publiées, on arrivait pour certaines chaînes à plus de 30 vidéos par mois, ce qui voulait dire clairement que ces enfants n'avaient plus d'activité de loisir. Parce qu'une vidéo qui dure 10 minutes, en tant que professionnel de l'audiovisuel, je ne vais pas vous apprendre que derrière, il y a du montage, il y a du temps de tournage qui dépasse tout ça.
Vous savez quoi ? Même nous ici, on ne fait pas 30 émissions par mois. On en fait 22. Non, mais c'est juste le chiffre est ahurissant. On va entendre à quoi ça ressemble. On marque une pause, les enfants peuvent se reposer et ensuite on va entendre. Ils peuvent nous écouter parce que, chance, nous sommes en vacances scolaires, oui, pas sûrement. Dans certaines zones.
On parle ce matin du travail des enfants youtubeurs et influenceurs, dont certains cumulent parfois des millions de vues sur Internet. Une loi pour encadrer et protéger les activités rémunératrices de ces mineurs a été votée par l'Assemblée nationale. On continue à en parler avec nos invités dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Un texte voté à l'Assemblée nationale la semaine dernière et adopté à l'unanimité a comblé un vide juridique concernant le travail des enfants youtubeurs et influenceurs qui sont de plus en plus nombreux depuis ces 10 dernières années. Et on en parle, Philippe, dans l'infomédia du jour avec nos invités. Bruno Studer, député LREM de la 3e circonscription du Bas-Rhin, et Thomas Romer, président de l'Open, l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique.
Alors, on va entendre à quoi ressemble une vidéo YouTube YouTube avec des enfants. L'extrait choisi, c'est une vidéo de Swan et Néo. Ils ont 8 et 14 ans et ils sont suivis par 4,5 millions d'abonnés sur YouTube. Extrait.
Coucou les garçons.
Bonjour tout le monde.
Comment ça va aujourd'hui?
Très bien.
Oui, on espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
C'est mon anniversaire.
Voilà, bon anniversaire.
Non, je rigole, c'est l'anniversaire de Néo.
Voilà.
Voilà, nous fêtons les 5 ans de Néo. Bon anniversaire Néo.
Non, les 15 ans.
Et parmi les cadeaux, tu le sais déjà, il y a également les cadeaux de certains abonnés.
Et oui.
Et sur les réseaux sociaux, il y a plein de super messages absolument adorables. Oui, qui te souhaitent un merveilleux anniversaire.
Merci à vous, c'est vraiment hyper sympa.
Oui, merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour nous. C'est trop, trop gentil.
C'est la maman qui parle ? Ce sont les parents qui parlent ?
Oui.
La chaîne existe depuis 2015. Swan, qui a 8 ans aujourd'hui, l'a débuté à 3 ans. Il chantait une chanson devant la caméra. Vous avez eu l'occasion, Thomas Romer, de parler, de discuter avec leur maman. Elle vous a dit quoi ? C'est un loisir pour elle, c'est pas un travail ?
Alors, malheureusement, je n'ai pas pu discuter. Je vous avouerai que suite à la saisine de la justice, elle n'était pas très contente. Elle nous a même fait des petites vidéos.
Vous avez communiqué avec elle.
On a essayé d'échanger avec elle. L'idée, une fois encore, il n'était pas de montrer du doigt ses parents et de vouloir moraliser tout ça. L'idée, c'était juste de partir d'un statut de personne vulnérable que sont les enfants et de dire que là, il y avait quelque chose qui commençait à partir un petit peu dans tous les sens et que ça méritait peut-être d'être un peu plus encadré. Non, la discussion était très compliquée dans la mesure où, en effet, par voie de presse interposée, elle nous répondait souvent que c'était une activité de loisir. Personnellement, quand j'emmène ma fille à la plage, je ne crée pas une société. Ouais. Et c'est pourtant ce qu'elle a fait.
Combien ça rapporte ?
Alors, c'est assez difficile parce qu'en plus, la monétisation...
Non, mais vu de nez, c'est 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros, comme ça.
Selon nos estimations à l'époque, on était, sans les contrats publicitaires, à environ plus de 150 000 euros mensuels.
150 000 euros mensuels ?
Oui.
Il y a peu de gens qui les gagnent, déjà dans la vraie vie. Ils reçoivent des cadeaux. On va entendre un autre extrait. C'est la chaîne Studio Bubble Tea qui est animée par Calice et Athéna. 12 et 7 ans, elles sont suivies par 1,5 million de personnes. Extrait.
On commence par Lego Duplo. Alors, miam, miam, miam. Est-ce que tu veux que je t'aide, Calice ?
Non, mais les veux papa modeler.
Allez, là, la papa modeler. Tiens, allez, ça va t'occuper. Pendant que Calice ouvre cette jolie boîte.
Regarde, Mathieu.
Wow. Miam, 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 miam. Alors, Calice est en train de faire sa première glace.
Le papa de Calice et Athéna, qu'on entend expliquer au Figaro qu'il a rencontré l'inspection du travail, qu'il a été contrôlé par les services sociaux qui voulaient s'assurer que ses enfants allaient bien. Il n'y a eu aucune suite. Je me fais l'avocat du diable. Où est le problème, monsieur le député, si tout va bien, si les enfants sont consentants, Bruno Studer?
Par exemple, le problème, c'est que ce papa, effectivement, a fait un certain nombre de démarches, quand il m'a rencontré, il a demandé si la loi était rétroactive.
D'accord. Donc ça l'inquiétait ou pas du tout?
A priori.
Ouais. Est-ce que parfois on peut dire qu'il y a des cas de maltraitance ou est-ce que là je vais trop loin et que le terme est trop fort ?
Mais les cas de maltraitance, c'est soit à l'autorité départementale de les établir, soit au juge. Ce n'est pas au législateur que je suis. Le législateur que je suis, il a à prendre des dispositions.
Écoutez, moi j'ai vu des images. Aux États-Unis, il y a un exemple limite.
Oui.
Il y a des parents qui s'amusent et qui s'amusent vraiment. Parce qu'ils, enfin, je ne sais pas s'ils s'amusent vraiment, justement, on peut en parler. Où des parents lancent une tranche de fromage sur la tête de leur bébé pour qu'il reste collé. C'est le cheese challenge.
Ouais, tout à fait.
Le fromage qu'on met dans les hamburgers. Ou alors ils font croire qu'ils ont mangé tous les bonbons d'Halloween et ils filment leur réaction et certains enfants se mettent dans des états pas possibles. Sur un enfant de 4 ans, est-ce qu'on n'est pas à la limite de la cruauté ?
Bien sûr que si. Là, vous parlez notamment de ce qui se passe aux États-Unis. Ouais. C'est pour que ça n'arrive pas en France qu'on légifère. Et c'est d'ailleurs pour ça que la France est le premier pays à légiférer.
Mmh.
Et ensuite, c'est encore une fois, pour avoir l'autorisation de tourner ces vidéos, dans le cadre d'une relation de travail, ces enfants vont passer devant une commission qui est composée notamment de professionnels de la psychologie enfantine, qui vont effectivement s'assurer de la bonne santé psychologique de ces enfants, avec toutes les limites que l'on sait, parce que quand vous avez l'exposition médiatique de ces enfants depuis l'âge de 3 ans, par exemple, ou même parfois plus tôt, avec parfois des dizaines, des centaines de millions de vues, il n'y a plus aucune intimité. Moi, je m'interroge vraiment sur la façon dont un enfant peut se construire sans intimité. C'est assez alarmant, je pense.
Et puis, il y a le droit à l'oubli.
Le droit à l'oubli.
J'imagine que peut-être Jordi, il était pas content quand il avait 18 ans d'avoir été ce gamin qu'on voyait faire dur d'être un bébé comme un petit singe chavant tout sympathique qu'il fut.
C'est pour ça que j'ai fait voter effectivement une disposition qui va permettre à ces enfants de demander la suppression, même si on sait que supprimer définitivement les choses c'est toujours très compliqué, mais en tout cas sans attendre 18 ans ils vont pouvoir demander la suppression de vidéos dans lesquelles ils apparaîtraient, dans lesquelles ils ne souhaiteraient plus se voir ou tout simplement quand ils sont à l'école ou au collège ils veulent pas que leurs copains les voient dans ce genre de situation.
Thomas Romer, on parle de l'encadrement des enfants youtubeurs, mais il y a un autre sujet, ce sont les enfants qui eux regardent leurs vidéos. Ils voient des enfants qui jouent avec des jouets, qui vont eux-mêmes vouloir, ça s'appelle de la pub, purement et simplement.
Téléachat.
Tout à fait. En effet, on parle souvent de ces enfants qui sont dans l'écran, mais il y a ceux qui les regardent, puisque c'est eux qui génèrent cette audience. Hein. Je rappelle que pour l'une des premières chaînes, c'est plusieurs milliards de vidéos vues. Hein. Et il y a un vrai cocktail un petit peu, je dirais, maléfique. Hein. Vous avez du coup des enfants qui regardent d'autres enfants dans un écran, donc on connaît déjà l'attirance des enfants naturels pour les écrans, en train d'ouvrir des paquets de bonbons ou des jouets. Donc là, on a atteint un summum qu'aucun publicitaire n'aurait pu concevoir ou imaginer. On est dans le paroxysme de l'ubérisation de tout ça.
Et puis il y avoir aussi une pression sociale très très forte, c'est que si les cadeaux sont chers, vous avez des enfants qui ont envie d'un cadeau cher avec les parents qui n'ont pas les moyens de leur acheter et qui se sentent dévalorisés. Il y a une triple peine.
Oui, et puis n'oublions pas que comment souvent sont consommées ces vidéos par des enfants qui sont eux-mêmes seuls derrière les écrans, parce qu'on est face à des écrans babysitter, ça c'est un autre sujet.
Ouais.
Un autre sujet que nous on traite également à l'Open, mais en effet, il faut s'interroger aussi sur la manière dont ces contenus sont consommés par ces enfants, et face à des images qui en effet ne sont pas déconstruites par les parents, ça peut avoir un impact.
Depuis le 6 janvier, YouTube bloque la diffusion de publicités ciblées sur les vidéos destinées aux moins de 13 ans, les chaînes qui mettent en scène des enfants, mais aussi les vidéos de comptines, de dessins animés. C'est une législation américaine, c'est une très bonne chose j'imagine, c'est un début.
Écoutez, honnêtement, hein, on reproche beaucoup de choses aux GAFAM sur ce sujet. Moi, je dois dire qu'on a toujours pu dialoguer de manière assez constructive avec les équipes de Google. Dès qu'on avait saisi la justice, le responsable de Google de YouTube Europe était venu me rencontrer. On avait échangé de manière très constructive, d'autant plus que ce phénomène, il est mondial. Nous, on a été contactés. On a été contacté par des associations du monde entier, Brésil, Allemagne, etc.
Voilà, puisqu'on précise, YouTube appartient à Google.
Tout
merci
à
beaucoup Thomas Romer, pardon, vous êtes président d'Open, l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique. Et merci beaucoup Bruno Studer, député LREM du Bas-Rhin. Merci pour ce projet de loi. Il va passer au Sénat, il va revenir, il va être voté pareil à l'unanimité selon vous.
Je pense que, y compris pour les plateformes, s'opposer à l'encadrement de l'exploitation des enfants, je pense que personne n'a intérêt à aller dans ce sens-là.
On est tous d'accord ici. Merci d'avoir été
Merci
avec nous.
Merci à vous.
À suivre dans Culture Média, la philosophie à l'honneur avec le rédacteur en chef de Philosophie Magazine, Michel Etchaninov, et c'est dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média ce matin, on accueille Michel Etchaninov.
Bonjour Michel Etchaninov.
Bonjour.
C'est pas facile à prononcer, nous avions deux raisons de vous recevoir aujourd'hui. Tout d'abord parce que vous êtes le rédacteur en chef de Philosophie Magazine mensuel qui existe depuis 2006, donc 14 ans et qui marche très bien. Et également parce que le dossier de couverture proposé dans le dernier numéro, le numéro de mars, concerne beaucoup l'univers des médias et plus encore celui de la culture. Avons-nous besoin d'admirer ? Alors comme c'est un mensuel qui traite de philo, j'imagine que la réponse est oui, on a besoin d'admirer, mais attention, mouvement dialectique contraire, il peut y avoir du danger à admirer.
C'est et vous... puis il y a peut-être une troisième partie, attention.
Oui, oui, thèse, antithèse, synthèse, voilà. Vous signez le papier d'ouverture de ce dossier par ces mots. Vous écrivez « Faut-il, pour devenir adulte, cesser un jour d'admirer ? Ce serait dommage, dans cette étrange faculté qui nous décentre et nous élève, vous-même, qui admirez-vous ? »
Vous voyez, en tout cas, il y a une réponse hein, ouais. à la fin du ouais. papier. Écoutez, je pense que c'est ce qui est bien dans ce dossier, c'est que chacun peut se poser la question.
Oui, mais vous qui admirez-vous ?
Moi, j'adore les dissidents. Les dissidents, c'est des gens qui ont le courage, parfois tout seuls, d'aller contre un pouvoir, par exemple à l'époque en Union soviétique, aujourd'hui en Chine, qui s'opposent à un pouvoir sans armes, à visage découvert, qui prennent des risques. Moi, j'avoue que j'admire énormément les gens courageux. Voilà. Par exemple, donc Vladimir Bukovski, c'est un grand dissident qui est mort il n'y a pas longtemps. Ben, je l'admire, je l'adore.
Vous citez des exemples très récents, parce que c'est ça qui est très intéressant dans votre mensuel, c'est que c'est pas un mensuel hors sol qui ne traite que de Kant et de Descartes. Vous prenez un exemple précis dans l'actualité pour montrer que l'admiration, qui est parfois voulue, peut conduire à des errements, le mot est faible. Exemple, Vanessa Springora qui raconte sa relation amoureuse avec l'écrivain Gabriel Mazenet dans son livre Le Consentement. Et vous dites, en substance, l'admiration peut conduire à des drames.
Oui, en fait, c'est ça la question. C'est-à-dire, l'admiration, ça nous décentre, ça nous élève, ça nous permet de nous oublier un peu, ce qui est dans une société ultra-médiatisée est quand même pas inutile de s'oublier. Mais parfois, on sent qu'il y a des admirations qui peuvent tuer la personne qui est en train d'admirer. Cette adolescente de 13 ans qui tombe amoureuse d'un écrivain de 50 qui semble la manipuler, c'est ce qu'elle raconte dans son livre qui est terrifiant. Mmh. Eh bien, on sent que cette admiration, ensuite, elle est instrumentalisée, que lui, pour lui, c'est une fan, il l'utilise, et donc, finalement, elle est un peu broyée par cette admiration, et elle a besoin d'écrire ce livre de désadmiration pour se libérer de ça. Vous voyez, donc l'admiration, parfois, elle peut être dangereuse. Autre chose, parfois, on a envie de remplacer celui qu'on admire. Ouais. Le film Joker, vous l'avez vu, c'est quelqu'un qui admire profondément un comique de stand-up. Bah, au fond, il veut le remplacer, ouais. Il veut le tuer. Ouais. Donc l'admiration, parfois, elle est trouble.
Et elle va à la haine, ce que vous racontez, vous analysez les ressorts de cette relation. On est dans une mission média. Il y a également une autre facette du sentiment d'admiration que vous traitez dans Philosophie Magazine, c'est l'admiration qui électrise les réseaux sociaux. On voit, par exemple, la popularité de certains influenceurs, certains youtubeurs. L'époque a changé, j'ai une question pour vous. Autrefois, on admirait Lindbergh, qui avait traversé l'Atlantique en avion, ou Camus, prix Nobel de littérature, des figure hors norme. Maintenant, les jeunes, parfois, admirent un type habillé comme eux, qui se filme dans une chambre qui ressemble à la leur, et qui raconte des histoires du quotidien qui ressemblent à leurs histoires. Qu'est-ce qui a changé en un demi-siècle ?
Bah, on est passé d'une grande distance. On admirait des grands hommes ou des grandes femmes, c'est-à-dire des gens qui avaient fait des exploits extraordinaires, avec une certaine distance.
Oui.
Aujourd'hui, c'est vrai que l'influenceur, il est dans sa chambre, il vous ressemble. Donc on est passé de la distance à la familiarité.
Ça, j'ai compris. Mais pourquoi, selon vous ? Est-ce que vous analysez ce phénomène ?
Moi, je crois qu'ils rendent un service énorme, les influenceurs, à ceux qui les regardent et les écoutent, c'est qu'ils donnent du sens à leur quotidien. On a un quotidien qui change tout le temps. Et il y a 20 ans, on ne pouvait pas s'imaginer notre quotidien d'aujourd'hui et on ne sait pas ce qui sera dans 5 ans. Même,
il y a 12 ans, l'iPhone n'avait pas été inventé.
Et voilà. Donc du coup, on ne sait pas du tout. Mais les youtubeurs, les influenceurs, ils donnent du sens. C'est-à-dire qu'ils expliquent les petits détails de la vie quotidienne, quel sens on peut leur donner. Et je pense que c'est très important aujourd'hui de se dire que ce qu'on fait tous les jours, c'est pas des gestes de robots, c'est pas des gestes automatiques, qu'on peut leur donner du sens, de l'humour, de la grâce, de la beauté. Et c'est ce qu'ils font.
Alors, vous interrogez sur le charisme ou l'absence de charisme de certains. C'est Cédric Angelbert, qui est l'auteur de l'article sur les youtubeurs, les influenceurs, qui pose une question. Comment expliquer que ce contre-charisme fondé sur la mise en scène de l'ordinaire suscite un tel engouement ? Et il écrit, la réponse est peut-être à aller chercher du côté de Gilles Deleuze. Et je me suis dit, waouh ! Que vient faire Gilles Deleuze ici ? C'est à l'agrégé de philo que je m'adresse.
Gilles Deleuze, il a écrit un livre qui s'appelle « Différence et répétition » et qui montre qu'en fait, il y a une vertu à la répétition. C'est-à-dire qu'on peut dire la répétition, on ne va pas répéter 10 fois la même blague, 10 fois la même chose, on devient quelque chose de mécanique. Eh bien, les influenceurs, comme souvent ils sont dans un comique de répétition, ils sont dans les mêmes mises en scène, ils parlent de choses répétitives qui sont le quotidien, justement, ils donnent du sens à ce qu'il y a de plus petit, de plus misérable en apparence, mais qui peut avoir un sens. Et c'est ça qui est bien, intéressant avec les influenceurs, c'est que même s'ils nous ressemblent, du coup, ils éclairent un peu notre quotidien. Donc, moi, je ne fais pas partie des ronchons qui disent que la jeunesse n'a plus de modèle. Je pense qu'on a des modèles qui sont plus proches. Je pense qu'il y a un risque de manipulation, parce que les influenceurs peuvent nous pousser à acheter certains produits, peuvent nous pousser à adopter certaines idées. Donc, il y a comme toujours, il y a des risques d'aliénation dans l'admiration, mais en même temps, il donne du sens à ce qui, à ce qu'on a difficilement, ce qu'on a du mal à donner. Vous voyez ?
Je vois.
Excusez-moi, je n'ai pas fouillé.
C'est pas facile. C'est de la philo. C'est développé sur une 50aine de pages. Et Philosophie Magazine ne se résume pas à cette couverture et ne se résume pas à ce numéro. On en parle avec vous.
Michel Elchaninoff est notre invité. Il est rédacteur en chef à Philosophie Magazine. Et on continue à parler de l'actualité du magazine et de son développement dans un court instant. Sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On parle de Philosophie Magazine ce matin avec notre invité Michel Elchaninoff, rédacteur en chef du magazine.
Quelle est l'idée de base de Philosophie Magazine ? À lire, c'est pas un mensuel à destination uniquement des cagneux et des profs de philo.
Non, en fait, c'est l'éclairage de l'actualité et des questions tout simplement qu'on se pose aujourd'hui dans notre vie, dans notre monde, mais à partir des outils de la philo. Donc, c'est pas un magazine pour philosophes, c'est un magazine pour tout le monde et qui vraiment qui essaye de d'éclairer ce qu'on vit. On vit une époque qui s'accélère, on vit une époque qui va dans tous les sens, on se pose plein de questions parce que tout est en train de changer. Et nous, notre pari, c'est de dire que les philosophes d'avant, c'est-à-dire de l'Antiquité à nos jours, et les philosophes d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui travaillent dans leur labo, dans leur fac, ont des choses à dire dans un langage clair, clair pour tout le monde, sur notre monde.
Donc, et qui est clair, et qui peuvent éclairer le XXIe siècle, quand même était-il né avant l'invention de l'électricité. Alors, il y a beaucoup de clés d'entrée dans ce magazine. Par exemple, il y a la page Divergence. Alors, ce que c'est, vous prenez une question du quotidien et vous donnez les réponses de quatre philosophes. Alors, en l'occurrence, ce mois-ci, les quatre philosophes, c'est Zénon d'Énée, qui a vécu en Grèce 4 siècles avant Jésus-Christ, comme chacun sait, Marcel Mauss, Briand, Baudrillard, le sociologue, est mort un peu de temps, et l'historien Georges Vigarello, qui est toujours parmi nous. Et la question du mois, c'est pourquoi faisons-nous du jogging ? En quoi est-ce une question philosophique ?
Bah parce que c'est des choses qui nous paraissent évidentes. Enfin, évidentes, oui, on va faire du jogging pour se sentir bien.
Oui, mais ça n'existait pas du temps de Zénon d'Énée. C'est ça qui m'a vraiment séduit dans votre question.
Oui, ben c'est ça, on fait un télescopage. C'est-à-dire qu'on se sert de ce que dit Zénon sur... Il prend l'exemple en fait, de quelqu'un qui court en disant qu'en en fait, il n'y a pas vraiment de mouvement. Enfin, il y a toute une réflexion là-dessus. Et il prend l'exemple, mais lui, il pense à quelqu'un qui court, tout simplement. Parce qu'en Grèce antique, on courait beaucoup.
Bien sûr.
Il y avait les Jeux Olympiques. Et il donne une réponse. Et donc, nous, on essaie de prendre ce qu'il y a de plus intéressant chez les philosophes du passé. Mais aussi, vous voyez, on prend Georges Vigarello qui est bien
lui, c'est différent parce que c'est un historien aussi du sport et de l'hygiène. Voilà. Donc, c'est plus, il est plus dans le cœur du sujet. Mais moi, j'ai adoré lire ce qu'en pense Marcel Mauss, parce que je ne l'aurais jamais imaginé sur ce terrain-là. C'est juste un exemple que je prends pour nos auditeurs. Tout philosophie magazine. Et comme ça, vous allez voir l'enchaînement. On parlait de courses. Est-ce que ça marche ? Comment vont les ventes ?
Ben, elles vont très bien. Écoutez, on vend, on a en diffusion payée, on a à peu près 45 000 exemplaires qui sont achetés chaque mois, à la fois pour les abonnés et en vente en kiosque. Donc, on va bien.
Vous êtes rentable ?
On est rentable.
C'est ça la question. On dit tellement que les journaux en France, la presse papier est sous perfusion, pas vous.
Non, on est rentable et je crois qu'on est rentable parce que les gens savent qu'on n'est pas comme les autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le mainstream. Ils savent qu'ils vont trouver à chaque mois des idées ou des éclairages qu'ils n'auront pas ailleurs.
Ça fait vraiment plaisir. Hier, on recevait Rock'n'Folk, qui est un journal qui marche très bien, un mensuel. Vous vendez encore plus que Rock'n'Folk et le sujet et la philosophie, c'est quand même plus ardu que le rock'n'roll
aussi.
Donc, félicitations. quelle diversification ! Tous les gens qui viennent, tous les patrons de journaux de Reda qui viennent ont des idées. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez faire des podcasts ? Vous allez faire un site ? Qu'est-ce que vous allez faire ?
Nous, on va rester sur la philo parce que nous, notre objectif, c'est d'éclairer le monde avec les outils de la philo. Par contre, on a un site internet qu'on va totalement transformer en mai avec une double approche, à la fois être plus sur l'actualité, mais toujours avec des approches originales, c'est-à-dire avec justement ce que vous dites, des approches qu'on n'attend pas pour éclairer l'actualité, et puis aussi quand même d'être le grand portail de la philo, c'est-à-dire quand vous voulez savoir quelque chose sur Zénon d'Élée ou Platon, vous venez sur le site de Philosophie Magazine. On a aussi une offre pour le monde de l'entreprise, pour tous ces gens qui se posent des questions et légitimes sur le burn-out, les rythmes de travail, l'accélération. Donc on a créé Philonomiste, qui est un site dédié pour le monde de l'entreprise.
Qui est votre public ? Ce sont des CSP+, les catégories socio-professionnelles, CSP+, ou CSP++ ?
Alors on a une partie CSP+, des gens qui ont fait de la philo il y a longtemps, qui se disent « Ah, c'était quand même intéressant », qui ont un peu oublié, pardon. On a... au moins un tiers de jeunes qui soit passent leur bac et on les aide à passer leur bac quand même, soit restent fidèles à Philosophie Magazine parce qu'ils ont bien aimé passer leur bac avec nous. Donc on est quand même une des rares publications avec un public où il y a beaucoup de jeunes.
Et ils ont réussi leur vie, les gens qui lisent Philo Magazine, parce que la pub en quatrième de couverture, c'est entrer dans l'univers banque privée. C'est-à-dire que pour avoir une banque privée plutôt qu'une banque normale, il faut avoir beaucoup de zéros à son salaire.
Le point commun, c'est la spéculation philosophique.
C'est vrai. Vous avez une banque privée ou vous avez une banque normale ?
Moi, j'ai une banque normale, mais on a fait aussi de la pub pour les banques coopératives et les mutuelles. Voilà. Donc on est très ouverts.
Moi aussi, non, mais c'est eux qui choisissent. Vous savez que ce n'est pas vous qui choisissez la pub, c'est la pub qui vous choisit. C'est ça le principe de la publicité. Merci beaucoup, Michel Eltaninoff. Je rappelle que vous êtes rédac-chef de Philosophie Magazine. Je rappelle la une du numéro de mars. Avons-nous besoin d'admirer ? Merci encore d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et place maintenant à votre duo d'humour. Dans Culture Média, on retrouve les digressions des rats d'auteur. C'est Stéphane de Grotte et Gilles Gaston Dreyfus.
Gilles Gaston Dreyfus. Gilles.GastonDreyfus.
Toi, c'est Stéphane de Groot.
Toi, tu dis de Groot.
Une vraie question. En France, on dit de Groot.
Oui.
Donc.
Qu'est-ce que vous disiez, du coup?
Bah, du coup, je.
Rien. Gilles, bonjour. Nous sommes vendredi 21 février.
Oui.
C'est la fin de cette semaine qui a été. Cette semaine. Hein. Vous voulez pas m'aider sur cette phrase?
Si. Bonjour, Stéphane.
Sacha Guitry est né un 21 février. Vous aimiez Sacha Guitry?
Beaucoup.
Vous écrivez des pensées? Vous avez des pensées? Vous pensez?
Non.
Vous alliez dire tout le temps, mais ça vous est. À propos des écrits, il y a un auteur qui est né en ce jour. C'est Raymond Queneau.
Voilà.
Vous terminez chaque fois par voilà, ça veut dire on passe à autre chose. Ce qui est pas très gentil. Moi, je vous amène un sujet.
Zazie dans le métro, ça fait partie des premiers livres que j'ai lus.
Ah bah alors, développé. Vous avez aimé?
Oui, j'avais beaucoup aimé.
Vous avez lu les exercices de style?
Oui.
Vous savez combien il y en a?
Non.
99.
99.
C'est énorme.
S'il a pas fait la centième, c'est pour.
Faudrait faire ça la centième de Queneau.
C'est une bonne idée.
Si je vous dis Gogol, je vous insulte pas. Hein.
Les âmes mortes.
Bravo. Vous êtes épatant. Parce que ça vient de nulle part. Gogol, bim, les âmes mortes.
Eh oui.
Son prénom, vous le connaissez? Gogol.
Raymond.
Non, c'est pas.
Illich.
Comment?
Illich.
C'est Nicolas Gogol.
Nicolas Gogol.
Le prénom de Spinoza.
Barour.
Mais ça j'aime bien. Mais pourquoi vous êtes pas comme ça plus souvent?
Je suis comme ça, moi.
Non, on n'est pas comme ça. Vous me laissez parler, tergiverser, radoter, et puis tout d'un coup, bim, vous dites quelque chose.
Découvrir un prénom, c'est pas non plus.
Enfin, Barouche, c'est pas le prénom le plus courant. Hein. C'est pas Jean-Claude Spinoza, quand même. J'aime bien quand vous êtes comme ça. Moi, c'est comme ça que je vous ai connu. Ah. C'est comme ça que je vous aime. C'est comme ça que les gens vous aiment.
Mais oui, c'est ça.
Si je vous dis Simone, ça vous pensez à qui?
De Beauvoir ou Veil.
Oui, alors il y a Nina.
Hein?
Nina Simone.
Ah, Nina Simone.
Vous pouvez fredonner un petit truc de Nina Simone?
Mais...
On est tout de suite dans l'univers de Nina Simone. Ouais. Une autre sur la face B.
Ouais,
c'est beau.
C'est une belle semaine qui se termine.
Vous voulez parler de quelqu'un?
Non, mais c'est trop tard.
Vous n'aimez pas les gens?
Si. Jean-Michel Ribes.
Vous êtes au théâtre, là?
On va bientôt commencer.
Vous allez jouer quoi comme rôle?
J'ai quelques camarades, Jacques Bonafé.
Non, vous allez jouer quoi comme rôle?
Vous. C'est un univers de bureau.
Ça, c'est le contexte. Votre rôle.
Un type qui veut devenir calife à la place du calife.
Ça, c'est l'expression même de votre rôle. Mais c'est quoi votre rôle?
C'est moi.
Et vous, donc, c'est quoi? Vous êtes un policier, vous êtes un barman, vous êtes.
Un employé de bureau.
Mais dites employé de bureau, alors.
Mais je ne comprenais pas votre question.
Je vous demandais votre rôle. C'est pas compliqué. C'est le rôle principal. Est-ce que vous allez avoir le Molière pour ce rôle?
Oui, c'est prévu.
Ben alors, je vous félicite.
C'est bien parce que je l'ai pas encore joué.
Pourriez dire un petit mot de remerciement?
Je suis très touché parce que comme j'ai pas encore commencé à jouer, c'est une confiance formidable qu'on me fait.
Je vous félicite, Gilles. Vous serez formidable dans ce rôle.
C'est
rôle.
Ça, je serai formidable.
Ce vendredi se termine.
Bon
week-end.
Oui,
faut dire oui. À lundi, ce sera plus simple.
À lundi.
C'était les Radoteurs avec Stéphane de Groot et Gilles Gaston Dreyfus. Vous les retrouvez lundi, 9h55 et en podcast sur europe1.fr.
Europe 1 Culture Média.
Culture Média qui continue après le rappel des titres de 10h. On va parler culture avec Arnaud Ducret, le comédien. Sera mercredi à l'affiche du film Mine de Rien, même le premier rôle. C'est l'histoire de deux chômeurs qui décident de construire un parc d'attractions sur une ancienne mine de charbon désaffectée. C'est vrai que c'est vraiment l'endroit. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu, évidemment. Et puis dans les indispensables, Louise Bernard vous emmènera au musée de la vie romantique pour l'exposition Cœur du romantisme dans l'art contemporain. Et puis un comics, American Vampire. Ce sera avec Clément Le Saffre. Et là aussi, il y a du cœur, mais percé.